I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je me souviens quand mes potes ont commencé à se retrouver les uns chez les autres pour nulle autre raison que juste mater des films d'horreur. Persuadée que je deviendrais la pestiférée du collège si je ne me rendais pas à ces rendez-vous infernaux pour l'âme fragile que j'étais, et que je suis toujours, je me forçais à regarder de loin, avec les mains entrouvertes devant mes yeux, des sauts, des exorcistes et autres screams. Je ponctuais ces séances de sursauts et de cris qui me valaient les gentilles moqueries de mes camarades. Mais au cinéma, moi j'aime faire ma catharsis par le rire, par les pleurs, mais la peur n'est pas une émotion qui m'émoustille particulièrement. Peut-être aussi que je m'identifie trop à ces personnages féminins qui y sont souvent maltraités, ou au contraire érigés en héroïnes, si et seulement si elles le méritent. Mais je sais que nombreuses sont mes amies qui s'éclatent devant le sang qui gicle, les démons possesseurs et autres joyeuseries du type. Et c'est le cas de nos expertes du jour, qui réalisent des films d'horreur, les analysent ou les critiquent, mais surtout qui les adorent. Le fond sonore de la rue sur laquelle notre salle de tournage était ouverte pour des raisons sanitaires, pour lequel je vous présente mes plus plates excuses, chers auditeurs et auditrices, n'empêchera pourtant pas mes invités de donner les clés d'une lecture féministe d'un genre foncièrement sexiste, et on analysera ensemble comment la femme y est représentée, que ce soit devant ou derrière la caméra. Bienvenue dans un nouveau débat d'affiché.
Boys, take his gun.
Quand on a une plage dans la tête.
What you got between your legs is your business, and what I got is mine.
You may not be able to fight like a samurai.
So fat.
But you can at least die like a samurai.
Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
Empieza el matriarcado.
Dracarys.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Affiché, le podcast qui parle de films et de séries à travers un angle féministe. Je suis Alix, responsable des podcasts chez Mademoiselle, et pour notre épisode spécial sur les figures féminines dans l'horreur, aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir trois expertes en la matière, Coralie, Célia et Kalindi. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Alors on va faire un petit tour de table pour vous présenter, vous allez dire un petit peu ce que vous faites dans la vie, et nous donner aussi en prime votre personnage féminin préféré dans l'horreur.
Tout d'un coup,
ouais.
Waouh.
Coralie, on commence par toi.
Ouais, donc moi je suis Coralie Farja, je suis réalisatrice, j'ai réalisé mon premier film qui s'appelle Revenge, voilà, qui mettait en scène une héroïne qui allait se venger de trois hommes en plein désert. Donc une sorte de mix entre Kill Bill et Mad Max, ou Deliverance, j'ai envie de dire ça. Et quand tu m'as demandé mon personnage féminin préféré dans l'horreur, je t'avoue que j'ai eu un petit peu de mal en fait à trouver.
Ah ouais ?
Ouais, et je pense que ça va du coup faire écho un petit peu aux questions dont tu parles après, parce que c'est vrai que pour moi, l'horreur, je ne l'ai jamais vraiment assimilée à des personnages féminins. Donc en cherchant un petit peu, bon, ceux qui me sont venus, bon, c'est peut-être Ripley dans Alien.
This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off.
Mais dans le vrai horreur, je t'avoue que j'ai séché.
Ah ouais?
Ouais. Après, bon, j'ai pensé à un film qui m'a marqué, Scream, quand je l'ai découvert. Donc voilà, j'ai même le petit pins avec Drew Barrymore au téléphone dessus. Donc je dirais peut-être ça. Mais je trouve que la question était intéressante parce que ma non-réponse dit beaucoup de choses, je pense, sur la suite.
Ouais, c'est clair.
Merci. Tu aurais pu prendre ton personnage à toi quand même.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tricher. Non, c'est vrai exactement. Mais bon, je voilà, j'allais pas m'autociter déjà. Donc
ici, on se la pète. Hein, donc t'aurais pu.
Et toi, Célia, est-ce que tu peux te représenter du coup, parce qu'on t'a déjà entendu sur le dernier épisode d'Affiché sur les teen movies, mais refaire un petit topo.
Ouais, du coup, j'ai pas réécouté en plus ma présentation, donc peut-être je vais dire exactement la même chose ou pas du tout la même chose, je sais pas. Du coup, je suis docteur en cinéma, je donne cours à la fac à la Sorbonne Nouvelle, voilà, et donc je travaille beaucoup sur le cinéma d'horreur et notamment sur les questions de genre, race, sexualité, etc. Et donc j'ai réfléchi à mon héroïne préférée, mais j'étais dans la situation inverse, c'est-à-dire que j'en ai trop.
Ah
donc
ouais.
C'était très compliqué pour moi d'en choisir une, donc j'aurais pu dire aussi Ripley de Alien, j'aurais pu dire Carrie, qui vraiment c'est toute mon enfance, mais je crois que la première grande qui en plus m'a vraiment donné envie d'aimer que des femmes au cinéma, c'était Sydney du coup dans Scream, qui est vraiment mon héroïne préférée.
you, you creep.
Défendrai envers et contre tous, même dans les tout derniers, jusqu'au bout. Voilà, c'est vraiment mon héroïne préférée, je pense.
Trop bien. C'est marrant cette inversion. Enfin, ouais. qu'il y en ait peu ou pas du tout. Enfin, pas du tout.
Je vais venir nuancer ça, du coup.
Eh bien, vas-y, Kalindi.
Moi, je suis Kalindi. Je suis chef des rubriques cinéma et séries de Mademoiselle. Et je participe à d'autres podcasts dont on va faire la promotion, du coup, comme Laisse-moi kiffer.
Bien sûr.
N'hésitez pas à écouter en masse. Et moi, alors j'ai réfléchi. Le truc, c'est que j'étais partagée entre ma première héroïne, celle que j'ai préférée quand j'étais gamine, et c'était Laurie Strode dans Halloween. Je suis une grande fan de Carpenter. Et pour moi, voilà, c'était l'héroïne la plus à l'époque, hein, la plus badass, la plus un peu androgyne et tout. Donc je la trouvais, je sais pas, j'accrochais vachement avec Laurie Strode. Et puis en fait, j'ai revu le film il y a quelques mois. Et je me suis dit, putain, ça ressemble pas du tout à ce dont je me rappelais.
Ah ouais.
Mais elle en particulier, elle ressemble pas à l'héroïne que j'avais un peu fantasmée finalement, parce qu'elle représente plein de stéréotypes déjà des personnages féminins dans les films d'horreur. Elle est, c'est le stéréotype de la Final Girl, de la Scream Queen, etc. Donc je suis un peu revenue de mon avis premier. Et j'ai envie de citer une héroïne, mais toute récente, là, toute neuve, qui est Dani dans Midsommar.
Stop it. Stop. Fuck. No. You're okay.
Midsommar, qui est un film d'Ari Aster, qui est... mon nouveau réal préféré.
Ouais, t'étais une grande fan d'Aria.
Ah, c'est devenu. J'ai montré à Alix pas plus tard que ce week-end où nous étions ensemble, Hérédité.
Oui, parce que comme je le disais donc dans cette intro de podcast que vous n'avez pas entendu, mais en fait moi je suis vraiment une grande froussarde et c'est ce qui m'a valu aussi de pas du tout m'intéresser dans un premier temps à l'horreur parce que c'est pas du tout des émotions que je recherche. Enfin vraiment, faut me faire violence pour regarder les films d'horreur. Mais c'est vrai que je m'y intéresse parce que forcément c'est un genre hyper intéressant qui exorcise plein de passions, etc. Donc j'essaie de m'y pencher. J'ai regardé Revenge aussi. Voilà, Hérédité ce week-end.
Hérédité, ça t'a mis une claque.
Hérédité, ça fait peur. C'est pas le plus soft.
C'est clair. Je me dis, attends, si t'as commencé par Hérédité, tu peux tout voir
puis
après.
Midsommar, c'est pareil. Midsommar, c'est pareil. Hérédité, du coup, on est sur un bon duo de films bien angoissants. Donc
exactement, gros niveau. Donc moi,
c'est plus soft. Du coup, ça passe mieux.
Ah bah oui, c'est oui. Et puis ça, quand même, on va pas se le cacher, un peu vieilli. Halloween. Hein. Mais du coup, il choisit Dani parce que Dani, c'est cette héroïne qui est trouble, qui est ambiguë, qui est ambivalente, qui commence par être un peu une noix blanche, bon, même si elle connaît quelques merdes dans sa vie quand même, et puis qui évolue pour presque être tentée par le mal. Je la trouve plurielle et je la kiffe, et elle est jouée par cette actrice extraordinaire qui est Florence Puff. Je sais jamais comment on dit, c'est Puff ou Pew,
Pew, je crois. Pew. Ouais.
Alors,
elle
Florence
est géniale,
Pugh,
ouais.
Qui est absolument extraordinaire, et qu'avant ça, on avait vu dans des films un petit peu d'époque, etc. Donc du coup, je trouve que c'est cool de l'avoir dans ce registre-là aussi. Donc c'est ma nouvelle héroïne. De toute façon, j'avais surtout envie de parler d'Ari Aster parce que je trouve qu'il n'a pas assez d'élu de son côté, et je l'aime plus que tout. Voilà.
Ouais. Et c'est vrai qu'on a cité beaucoup de personnages féminins créés par des hommes, et ça va être un peu aussi le premier point de ce podcast, de parler de la figure féminine derrière la caméra dans l'horreur. J'aimerais citer John Carpenter dans Télérama en 2019, qui confiait: mon goût pour les héroïnes qui donnent plus de coups qu'elles n'en reçoivent m'a valu d'être reconnue comme un cinéaste féministe par une partie de mon public. Pourtant, j'ai essuyé des critiques diamétralement opposées qui m'ont reproché mon univers trop viril. Tout est question de perception, et je trouve que ça rentre bien dans cette idée de Carpenter, c'est quand même un grand de l'horreur. On peut en citer d'autres. Il y a Aja, Romero, Wes Craven, Cronenberg, même Lynch. C'est que des hommes. Est-ce que vous pensez que c'est un genre fabriqué par et surtout pour les hommes? Et du coup, qu'est-ce qui vous a permis d'y rentrer en tant que femme?
Oui, moi je pense effectivement que pendant très longtemps, jusqu'à très récemment, en fait, le genre horreur a été vraiment quasiment exclusivement traité par des réalisateurs masculins. Bon, il y a toujours quelques petites exceptions, et adressé, je pense, aussi principalement à un public masculin. Et à mon sens, c'est aussi ça, évidemment, qui a créé un petit peu la mythologie autour des héroïnes de films d'horreur dont tu parlais, la Scream Queen, la Final Girl, etc. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de projections, de fantasmes, et que l'horreur ou le B-Z movie était aussi un peu un moyen à l'époque, très clairement, de montrer de la nudité et des femmes un peu dévêtues, puisqu'il n'y avait pas encore accès à toutes les images desquelles on est abreuvé aujourd'hui à la télé, dans les magazines, etc. Et vraiment, je pense qu'il y avait un côté transgressif. On va voir ce qu'on n'a pas le droit de voir dans la vie de tous les jours. Donc ce côté-là, un petit peu voyeur, pour moi, à mon sens, est une composante fondamentale de la manière dont sont nés les films d'horreur et de la manière dont ils ont été traités jusqu'à un moment récent, quoi. Mm-mm.
Moi, j'aurais juste tendance à nuancer d'un point de vue historique, puisque les gros premiers films d'horreur, vraiment hyper mainstream, qui ont commencé à faire beaucoup, beaucoup d'argent, type Alien et Halloween, qui ont vraiment lancé un petit peu la grosse machine, c'était des hommes. Donc, effectivement, on a vite tendance à se dire c'est un genre hyper masculin réalisé par des mecs. En fait, très rapidement, dans les années 80, après Halloween, les mecs ont compris, à un moment donné, surtout que le gros public principal de ces films-là, c'était les filles. Et aussi, notamment, qu'il fallait leur donner envie d'y aller parce que les mecs n'avaient pas d'autres films à aller voir avec elles. Donc, c'était souvent, je vais t'amener voir un film d'horreur, ça va être un peu le crash test pour notre couple. Si tu passes ce test, c'est OK. Et très rapidement, dans les années 80, beaucoup de producteurs ont commencé à se dire, il faut vraiment qu'on capitalise sur les femmes. Et notamment, ça correspond aussi dans les années 80 à post-Carrie et post-Alien, sont les deux grands films, même avant encore Halloween. Cette idée aussi que toute la théorie féministe qui s'est lancée un peu à la fac a commencé à dire, écoutez, enfin, vos films d'horreur, c'est quand même hyper hard avec les femmes. Et dès les années 80, du coup, en tout cas aux États-Unis, on a très vite compris qu'il fallait quand même faire un petit peu attention. Et un des films que je recommande vraiment, qui montre aussi ce changement-là, qui n'est pas hyper connu en France et même aux États-Unis, même s'il est hyper culte, c'est le film d'Amy Holden Jones qui s'appelle Slumber Party Massacre, qui sort en 82, donc vraiment juste après Halloween, deux ans après. Et c'est une sorte de parodie hyper critique sur les slashers, avec une sorte de partie pyjama entre filles et un tueur hyper phallique avec une espèce de drill qui les attaque tout le temps. Il y a plus de mecs qui se fait défoncer à la fin du film que Nana. Et il y a trois Final Girls. Et c'est le film totalement oublié par toute la critique féministe à l'époque, qui déjà détruit le concept de « il n'y a qu'une fille qui va survivre ». Et je trouve que dès les années 80, il y a un peu ce truc qu'on a eu tendance à un peu oublier. Et je pense que c'est plutôt le backlash hyper machiste du genre de dire « on va essayer d'effacer médiatiquement le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent les films d'horreur ». Pour justifier qu'on continue à sortir des films encore hyper sexistes. Et en fait, encore aujourd'hui, il y a quand même pas mal de femmes qui tentent, etc. Et Slumber Massacre, par exemple, c'est la seule franchise, il y a 7 films, qui est uniquement réalisé par les femmes. Donc on a quand même réussi à en faire quand même pas mal d'affilée.
C'est fou qu'on n'en parle jamais.
Alors, il n'est pas sorti en DVD en France, déjà. Okay. Il est ressorti assez récemment. Enfin, ils sont tous ressortis en Blu-ray aux États-Unis. Donc, il y a un petit peu un retour de hype pour la jeune génération. Mm-hmm. Donc, on en parle un petit peu plus. Mais c'est un film qui a été très, très culte dans les années 80 et qui a été produit par Roger Corman, qui était vraiment le pape des films bis d'horreur. Et il y a eu des gros clashs, en plus, sur le tournage parce que la réalisatrice, du coup, voulait vraiment être hyper critique. Et lui, dans son dos, a monté plein de plans un peu cachés qu'il avait demandé à tourner avec l'équipe bis. De femmes dénudées. Et du coup, il a monté dans son dos plein de plans comme ça. Et elle a dit, OK, bon, j'accepte le contrat. On va mettre plein de plans comme ça. Et à contrario, elle a remonté son film en critiquant absolument les hommes à chaque plan. Et il était très fâché, mais il s'est dit, bon, tant pis, on verra. Les gens vont peut-être croire que c'est premier degré ou pas. Et il y a assez de seins pour le contrat, donc c'est OK. Mais je trouve que dès historiquement, il y a ce truc aussi un peu que les femmes ont toujours été là, ou en tout cas que le public féminin est là.
Et c'est dû à quoi, à votre avis, sans faire de la psychologie de comptoir, mais je me dis, c'est peut-être aussi un peu un moment... Enfin, moi, je me souviens avoir été invitée dès le collège, en fait, dans des soirées où il fallait regarder un film d'horreur, et si tu regardais pas jusqu'au bout, t'étais un peu une flippette, et voilà. Et il y avait un peu un rite de passage. Alors, je sais pas ce que ça dit, mais c'est intéressant.
On n'a pas fait les mêmes soirées, hein.
C'est vrai.
Ah non, vraiment, personne ne m'a invité à faire ça, quoi.
L'exorciste, effectivement. Ah, c'est la première fois vraiment... que tu regardes l'exorciste, il y a quand même un côté interdit, quand même. Toujours dans ce truc-là de jouer à se faire peur et au final c'est pas la réalité. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le public, parce que c'est vrai en effet que les publics ont toujours été mixtes. Et moi-même j'ai regardé beaucoup de films d'horreur. Après quand même dans la proportion de ceux qui les ont fabriqués,
C'est minime.
Là, effectivement, ouais, c'est quand minime. Même dans un univers ultra masculin et je pense qu'il y a quand même un prisme qui se transmet dans la manière dont les films sont fabriqués selon ceux qui les écrivent, ceux qui les produisent et ceux qui les réalisent, quoi. Même si, in fine, bah finalement, le public, il va voir ce qu'on lui donne à voir et il choisit pas forcément les modèles auxquels il peut s'identifier, quoi.
Mais juste, j'aimerais revenir sur un truc. Tu disais que au niveau du public, c'était extrêmement mixte. Mais quand je vais dans les festivals de spécialisés dans les films d'horreur, je remarque qu'il y a pas tant de meufs que ça en fait.
Que dans les festivals, en général, il y a beaucoup de meufs.
Alors,
en tout cas, mais festival américain,
c'est une bonne question. Tu vois, je sais pas, mais c'est vrai que moi, les principaux que je fais et que j'aime, c'est ceux de qui présentent des films d'horreur. Et en fait, on est très peu de nanas à se déplacer pour aller consommer cette horreur-là pendant les festivals. Donc, je me demande à quel point justement c'est vraiment mixte la population qui se déplace encore aujourd'hui voir des films d'horreur.
Bah, je pense que déjà le grand truc, c'est que si on réfléchit, quelles sont les grandes stars masculines du genre d'horreur, il y en a pas.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Enfin, c'est quand même un genre, encore aujourd'hui, qui est l'un des rares genres où il n'y a pas de stars masculines. Et les stars du genre, déjà, c'est des femmes. Et donc, effectivement, oui, il y a pas mal de publics masculins qui vont se dire « Vraiment, j'adore les films d'horreur parce que j'adore les actrices. » À vrai dire, c'est peu le cas. Et ce n'est pas des gens qui vont consommer vraiment parce qu'ils ont une passion pour les stars du genre. Et pour le coup, à l'inverse, pour avoir un peu bossé dessus, par exemple sur Internet, sur la réception, etc., les consommatrices, le public féminin qui va voir, il va aussi parce qu'il y a des stars femmes, quoi. Et qu'il y a ce truc, justement, une fois qu'on rentre dans le genre, en fait, on se rend compte qu'on a des contre-modèles qu'il y a nulle part ailleurs. Et pour cette question du festival, je pense que la question, c'est... On revient à ça. Quelle place on laisse aux femmes ? Quelle place on laisse aux femmes, en plus, dans des festivals de genre, etc. Mais on a les mêmes problèmes sur les festivals de comédie aussi, qui sont un peu réservés aux mecs. Et quelle place on laisse aussi au public cinéphile, un peu geek, féminin ? Moi, pour avoir traîné des années en tant que geek jeune sur Internet, clairement, j'ai eu beaucoup de mal à avoir une place. Et c'était le concours de qui savait mieux que l'autre. Ils étaient très énervés dès qu'effectivement, je connaissais un peu mieux les films d'horreur qu'eux. Donc ça, c'était vraiment le gros shaming pour eux. Mais il y a aussi ce truc, et je pense que c'est la même chose dans la presse, qui a le droit d'en parler et qui a la légitimité de parler de ce genre-là. Alors que c'est aussi, même à la fac, finalement, des femmes qui ont lancé le genre d'un point de vue théorique et qui en ont parlé. Et moi, je le vois encore aujourd'hui. C'est plutôt des jeunes chercheuses qui continuent à en parler, même si on est constamment invisibilisé sur ces questions-là à la fac. Mais il y a un vrai souci, justement, sur croire que c'est plus quelque chose pour le public masculin à tous les niveaux, presse, théorie, fac ou public. C'est aussi une stratégie des mecs de garder, je pense, la domination aussi symbolique sur ce genre-là, parce qu'effectivement, ils sont derrière la caméra et ceux qui font le genre, mais malheureusement, leur genre, il est totalement dépossédé par les femmes, à tous les niveaux, entre guillemets.
Bon, ça se voit rien qu'autour de cette table aujourd'hui, mais tu me disais, Kalindi, que toi, du coup, on n'avait pas du tout fait les mêmes soirées. Toi, comment t'as découvert l'horreur ? Enfin, comment t'es rentrée dedans en tant que...
Mais moi, par curiosité, c'était pur et simple, c'est-à-dire que je me souviens qu'à l'époque, donc ma mère travaillait chez Air France et il y avait une grande, grande vidéothèque. Elle me disait toujours « qu'est-ce que tu veux regarder ?» Et donc j'allais avec elle à la vidéothèque d'Air France et on choisissait des films. Et moi, tout de suite, je me suis intéressée à ce qui avait l'air un peu sanglant. C'était par curiosité d'abord, et en plus parce que mes parents m'ont laissé le faire. C'est-à-dire que ma mère m'a jamais dit « bah non, tu vas pas regarder ça, c'est trop sanglant, c'est trop ci, c'est trop ça ». Elle m'a toujours laissé la liberté de consommer ce que j'avais envie de consommer. Et donc, très petite, j'ai commencé à voir des films ultra flippants. Et Halloween faisait partie des premiers que j'ai vus. À l'époque, pour une petite fille de 8 ans, Halloween, ça fait quand même vachement peur. Aujourd'hui, tu regardes Halloween, tu rigoles en te grattant les aisselles parce qu'en réalité, c'est plus flippant pour dessous. Mais ouais, moi, je suis rentrée dans ce genre-là par hasard et c'est ce genre-là qui m'a donné envie de faire de la critique de cinéma une des parties de mon métier. Parce que c'est mon... Ouais. Je trouve que ça dit tellement de choses de la société. T'as des héroïnes, pour le coup, qui sont extrêmement différentes de d'autres genres cinématographiques. Et puis, en fait, toi, tu me dis tout le temps... moi, j'aime parce que j'ai pas envie de chercher la peur. J'aime pas la sensation de peur quand je regarde un film. Et je te réponds toujours, mais je trouve qu'en fait... la peur, c'est le premier stade du film d'horreur. Mais en fait, dès que tu dépasses ce truc-là, tu t'affrontes des sensations, des émotions et des réflexions que t'as dans aucun autre.
C'est hyper symbolique comme cinéma, j'ai l'impression.
Ouais, et puis tu vois, vraiment, si on reparle d'Hérédité deux secondes, moi je trouve que ça ne ressemble à rien d'autre, mais littéralement à rien d'autre. Et c'est rare que des formes de cinéma plus classiques s'autorisent autant d'extravagance que dans ce film-là, quoi. Donc. Ça répond à ta question, c'était quoi la question
initiale? Ouais, non, c'était bien. Comment t'as découvert l'horreur? Et vous, comment vous êtes rentrée dedans, Coralie, par exemple?
Moi, ça a été plus jeune avec mon frère, en fait, qui lui avait accès à ce cinéma-là. Et c'était un petit peu justement la transgression de regarder les films qu'on n'avait pas le droit de regarder parce que c'était trop violent, donc ça allait forcément nous traumatiser. Et donc moi, ça a été vraiment par ce prisme-là. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu le fait d'avoir accès à ces films comme avoir accès à quelque chose, normalement, que les filles n'ont pas le droit de voir. Et du coup, j'y mettais une valeur immense. Enfin, c'était... parce que c'est vrai que les trucs de poupées, de machin, ne m'intéressaient pas spécialement. Et donc, d'avoir accès au monde qui était considéré quand même comme le monde des garçons, moi, quand j'étais petite... J'avais l'impression que c'était le Graal, enfin que j'étais d'un coup sur un piédestal, que j'avais accès à un truc absolument fantastique, quoi. Donc rien que dans ça, en fait, je trouve que ça dit beaucoup sur comment, en tant qu'enfant, fille ou garçon, on peut s'identifier à des schémas qui nous sont présentés, qui sont infusés, même s'ils sont pas consciemment transmis, par les parents, mais c'est partout autour de nous. Il y a des lignes qui commencent à bouger aujourd'hui, mais plus jeune, moi je sais que c'était très très genré, sectorisé sur ce que regardaient les garçons, ce que regardaient les filles. Et cette dichotomie, pour moi en tout cas, elle a été très marquée. Et c'est vraiment quelque chose où je me sentais très... élu, privilégié, ouais, d'avoir accès à un monde auquel normalement j'aurais pas dû avoir accès et auquel en plus mes copines en effet ne s'intéressaient pas du tout, quoi.
C'est marrant, moi c'est l'inverse parce que toutes mes copines consommaient du film d'horreur et ça a été tradition pendant très très longtemps, c'est de regarder des films d'horreur entre copines le soir. Donc pour moi je suis complètement à côté de ce truc qui dit que c'est les garçons jeunes qui devaient regarder des films d'horreur. C'est pas du tout mon expérience du sujet, quoi.
Ouais, moi, mes copines ne regardaient pas ça. On en a parlé sur le dernier podcast. Moi, j'étais empoisonnée par les teen movies pour filles, donc c'était vraiment l'enfer. Donc, j'avais plutôt le côté, je regarde quelque chose que mes copines ne regardent pas du tout. Et moi, j'ai eu un côté hyper ritualisé pour rentrer dans le genre. En fait, j'avais les affiches dans la chambre de mon oncle, chez mes grands-parents, qui étaient un peu plus âgés que moi. Et vraiment, on voyait les affiches tout le temps, cette espèce de chambre retraite où on allait se cacher tout le temps quand on ne voulait pas aller au repas. Et à force de voir les affiches, j'ai demandé à mon père, du coup, qui avait le droit de sélectionner ce qu'on regardait ou pas, parce qu'on était assez jeune avec mon frangin. Et il m'a dit, oui, on a les cassettes à la maison, mais par contre, vous êtes trop jeune, donc ce sera ton cadeau d'entrée en sixième. Donc c'était hyper ritualisé, c'est-à-dire que j'ai vraiment attendu pendant 2-3 ans ce moment où j'allais enfin comprendre de quoi parlaient ces films. Donc je connaissais juste ces affiches, donc c'était Scream et L'Exorciste, les premiers, et rapidement on a vu Carrie. Donc c'était mon entrée en sixième, mon frère était 2 ans plus jeune que moi, donc lui il était traumatisé.
Ah ouais.
L'ouverture, la pendaison de Drew Barrymore dans Scream, c'était traumatisant. La fin de Carrie, c'était l'enfer pour lui. L'Exorciste, c'était l'enfer en général. Et moi, du coup, on revient à cette question-là, c'est-à-dire que j'avais été abreuvée de films hyper cool toute ma jeunesse, et en même temps, c'était que des mecs dans tous les films, ou des potiches. Et vraiment, c'est les 3 premiers films où je me suis dit, waouh, enfin, ça peut être une actrice forte. En plus, toutes les actrices étaient ou un peu brimées pour leur féminité, du coup, je me reconnaissais un peu là-dedans, ou un petit peu assez masculine pour moi, mais pas trop masculine non plus. Et du coup, je me disais, ok, il peut vraiment y avoir des films de... fille, alors que j'étais très jeune, qui correspondent à plus ce que j'ai envie d'être. Et donc mon père comprenait que j'étais hyper fascinée par ça. Il me disait, oui, si tu veux, on peut trouver la même veste que Neve Campbell dans Scream, comme ça on te refait un petit look si tu veux. Et je disais, non, quand même pas, les gens vont me trouver un peu bizarre. Mais il y avait vraiment ce truc hyper fascinatoire. J'ai jamais vu de modèle féminin comme ça. Et donc, c'est vraiment, c'est ça qui m'a donné envie de me dire, OK, le cinéma, ça peut vraiment être super cool d'un coup, quoi.
Mais on observe aussi, quand même, il faut le dire, un genre en pleine mouvance aujourd'hui. Après, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que son blason est un peu redoré parce que c'était considéré souvent comme un genre de série B. Et là, aujourd'hui, on a une nouvelle vague de films plus auteurs qui sont plus récompensés. Mais aussi, on a beaucoup de femmes, du coup, qui réalisent des films. On a Coralie Farjac, qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. On a aussi Julia Ducournau en France, Catherine Bigelow, Claire Denis, Jennifer Kent. Enfin, j'en ai noté.
Et Rose Glass, que j'aimerais mentionner, puisqu'elle a gagné Gérard Armé l'année dernière avec un film incroyable qui s'appelle Saint-Maud. Ouais. Et qui, pour moi, redéfinit complètement l'héroïne du film d'horreur, parce que pour le coup, elle est non seulement trouble, mais même complètement attaquée psychologiquement. Moi, j'ai trouvé ce film absolument fascinant. Je sais plus ce que t'en avais pensé. Toi, je crois que ça t'avait pas autant fasciné que moi l'année dernière.
Mais encore une fois, moi, je suis pas très connaisseuse. C'est ça le problème aussi, c'est qu'il faut un peu connaître, je pense, pour rentrer dans le genre et connaître.
Non, je suis pas sûre pour le coup que Saint-Maud y faille. De toute manière, je trouve que c'est un genre qui est très accessible de manière générale, l'horreur. Donc, c'est vrai que là, on est dans une vibe plus auteur avec Saint-Maud et même avec, je sais plus lesquels t'as cité, mais Jennifer Kent.
Bah, même Grave, c'est un peu plus.
Et Grave, oui, en effet. Tu l'as vu, toi, Saint-Maud
Ouais, je l'ai vu, ouais. Moi, j'étais un peu entre deux, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé la proposition artistique. Enfin, elle amène un univers très fort. Après, je suis restée un petit peu quand même sur ma faim, sur ce rythme très lent, enfin très un petit peu trop, qui m'a un petit peu perdue en chemin. Mais je reconnais énormément de qualité et on sent qu'il y a une patte, ça c'est sûr. Ouais.
Et est-ce que vous avez l'impression que du coup les femmes s'approprient réellement le genre? Est-ce que c'est pas une copie ou est-ce que c'est un détournement? Enfin, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez qu'il y a une véritable différence ou c'est dans le prolongement du genre où juste les femmes s'y mettent à leur tour?
Bah, franchement, des nanas, des réalisatrices que tu as citées, il n'y en a aucune qui fait un cinéma semblable aux hommes qu'on a cités précédemment, tu vois. Que ce soit Wes Craven, que ce soit Carpenter, qui font des cinémas que moi j'admire beaucoup, mais le slasher, ça reste toujours la même limonade. Et là, en l'occurrence, tu as abordé le nom de femmes qui ne font que du cinéma, des propositions extrêmement différentes de ces cinémas-là qu'on a l'habitude de voir. Donc oui, je pense que non seulement elles se le réapproprient, mais elles transcendent le genre complètement, elles arrivent avec quelque chose d'hyper nouveau et qui en plus plaît. J'ai l'impression que ça plaît. Enfin, Grave, ça a eu un super beau succès en France. Babadook, que j'estime déjà être un truc un peu novateur, a eu pas mal de succès, j'ai l'impression. Donc non.
Mais moi, je nuancerais quand même cette question du succès. Je trouve que, Grave et même ton film Coralie, les gens en ont beaucoup parlé dans la presse. Et mais en même temps, je trouve qu'en France, on est un petit peu en retard par rapport à ça. Même Babadook, ça a eu vachement de succès après coup. Une fois que le film était déjà sorti, parce qu'il est sorti sur Netflix, que tout le monde l'a redécouvert. Puis, il y a eu toute cette polémique de réappropriation aussi de la communauté LGBT qui a repris le film. Et du coup, les gens se sont dit, c'est quoi ce film avec un espèce de monstre qui serait LGBT? Et du coup, les gens ont revu le film après la sortie. Et je trouve quand même il y a à la fois, oui, les médias parlent plus de ça. En même temps, il y a un petit peu un retard en France où les Français consomment beaucoup du film d'horreur américain et peu de l'horreur française. D'où le fait, et je pense que tu me corrigeras pas sur ça, Coralie, que c'est compliqué en France de faire de l'horreur, et surtout quand on est une femme. Moi, je connais des amis qui ont fait de l'horreur qui, du coup, sont partis aux États-Unis pour faire finalement, globalement, un peu de la daube aux États-Unis, mais au moins, entre guillemets, ils ont fait leur film. Mais il y a ce truc en France de c'est compliqué, quoi. C'est pas un genre hyper fétiche. Et donc, effectivement, la seule porte d'entrée, c'est d'avoir une approche peu américaine. Et donc, finalement, effectivement, auteur, donc plus français, entre guillemets, et que ça passe comme ça. Et en même temps, je trouvais, par exemple, typiquement, ton film Coralie, le film de Julia Ducournau, ont eu beaucoup plus de succès aux États-Unis, même critique. Ouais. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'on ait deux films comme ça en France, que les gens prennent tant de temps en fait pour y aller et qu'il faut limite, Grave, il y a eu un peu un retour de « Ah, ok, les Américains adorent, peut-être qu'on va le voir du coup. » Alors que c'est français, allons-y. Et je trouve qu'il y a ce truc un petit peu, je ne sais pas comment l'expliquer, à part...
Après, je pense quand même... moi, j'étais dans la société de production de Grave au moment où le film est sorti. Je travaillais là-bas. Et je me souviens de la fête des chiffres. Là. Putain, je ne sais plus comment...
La soirée chiffres.
La soirée chiffres, voilà. La fête des chiffres. Je me souviens de la soirée chiffres où tout le monde était là. Waouh, c'est ouf le nombre ouais. d'entrée.
Moi, il me semble que grave, ça avait quand même pas mal.
Pour un, ça reste pour un modeste
de,
quand même.
Pour un film de genre, ça, ouais, ça a bien ça. Marché. Après, c'est vrai que par rapport à. Alors, le succès américain de Grave a été vraiment critique en termes d'entrée. Je ne pense pas que ce soit aux États-Unis qu'il ait le plus marché. Par contre, en France, c'est vrai que pour un film de genre, il a vraiment eu un beau succès en salle. Après, c'est sûr que on reste, je crois, dans des 150 000 entrées ou des choses comme ça, ce qui, pour tout autre film, ne serait pas considéré comme un immense succès de chiffres, en tous les cas.
Et face aux autres chiffres, je voulais dire plutôt des films américains d'horreur qui ouais. sortent en France.
Oui, oui, oui.
Clairement des très, très
après, effectivement,
chiffres.
Je pense que de toute façon, on est dans des deux cultures totalement différentes par rapport aux films de genre. Effectivement, je pense que mon film a été vraiment un très bon exemple de la différence d'appropriation entre ces deux cultures. Moi, je sais que là où le film vraiment a commencé par être très, très bien reçu, c'est aux États-Unis, où vraiment, bah, on a eu, bah, par les festivals, une presse assez incroyable. Et comme tu
et
disais...
Et du coup, c'était un choix de le faire en anglais ?
Est-ce alors, que c'était un choix aussi ? En fait, ça a été plus une nécessité qu'un choix, puisqu'on s'est posé la question très vite avec mes producteurs de savoir dans quelle langue on allait faire le film, parce qu'effectivement, en France, on sait que c'est quasiment impossible de faire du genre. Donc, moi, j'ai dit, bah, c'est malgré tout mon premier film, je suis française, j'aimerais le faire en français. Donc, on a essayé de le financer en français, mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à réunir l'argent. Après, on a essayé de le faire intégralement en anglais et on n'a pas réussi non plus à le financer parce qu'on se retrouvait en fait dans une niche où c'était un film qui était trop petit par rapport à des financements étrangers et on perdait du coup tous les financements français auxquels on pouvait avoir droit. Et c'est comme ça en fait qu'est venue l'idée de mélanger les deux langues puisqu'en fait, il est 50% français, 50% en anglais. Ce qui nous permettait en fait d'avoir accès au financement français tout en maximisant la portée internationale du film et en pouvant avoir des apports en amont qui étaient plus importants que pour un film simplement français vu qu'on savait qu'il allait mieux s'exporter. Et en fait, c'est vrai que ici, je rejoins ce que tu dis, ça a vraiment été le deuxième effet qui se coule où il y a vraiment eu un effet boomerang où... quand il y a commencé à avoir des articles de Variety, Hollywood Reporter, New York Times, en disant « c'est fabuleux », etc., les gens se sont dit « ah, en fait, le truc qu'on prenait pour de la série B ou de la série Z, en fait, c'est peut-être pas mal, on va aller regarder ». Et il y a eu comme ça un effet d'entraînement, vraiment un effet boomerang, où c'est le succès international du film qui a permis à ce que la France se l'approprie aussi. Mais parce que c'est vrai que c'est des genres de films qui ont des codes où le public n'est pas habitué, enfin, ne les accepte pas en fait. Ouais. Il les accepte si ça vient des Américains ou des Sud-Coréens, etc. Mais dès que c'est des films français, il y a une sorte de dichotomie, enfin, de schizophrénie qui est impossible.
C'est quoi du coup ? Qu'est-ce qui explique ça ?
Je pense que c'est, pour moi, je pense vraiment que c'est une tolérance ou une intolérance au lâcher-prise, en fait. Parce que pour moi, un film de genre, c'est un film qui est dans l'excès. C'est un film qui flirte en permanence avec le grand guignol, avec le ridicule. On est toujours sur une ligne où on lâche comme ça quelque chose en donnant quelque chose de totalement brut, excessif, qui va vers l'humour aussi parfois. Et c'est vrai qu'en France, on est quand même beaucoup plus dans une retenue, dans un intellect, dans une analyse. Et on accepte ces codes-là, je pense, venant des Américains ou des Sud-Coréens, par exemple, qui, eux, sont totalement là-dedans. Mais quand on voit des acteurs français, quand on se met dans l'état d'esprit film français, je pense qu'on a du mal avec ça, en fait. Enfin, c'est pas des codes avec lesquels on est très à l'aise. Donc, il faut une sorte de filtre, c'est vrai, en tous les cas, pour se dire « Ah, ok, en fait, je peux finalement mettre mon cerveau en mode un peu différent. » Et pour ça, comme tu dis, d'avoir le rattrapage en VOD ou les deuxièmes, troisièmes visionnages bien après que le film soit sorti en salle, je pense, permet des visionnages très différents des premiers moments où le film sort, ouais.
Et je pense qu'il y a quelque chose aussi de le fait que le genre soit intrinsèquement lié à un univers très américain. Et ça a vraiment beaucoup tardé à arriver en France. Enfin, les premiers gros films d'horreur français ont vraiment tardé. Il y a eu toute une vague comme ça au début des années 2000 qui était vraiment assez forte. Et enfin, toute la vague Aja, etc. Et en même temps, le fait qu'on ne se soit pas approprié un imaginaire plus national autour du film d'horreur fait que c'est très compliqué. Moi, je me rappelle quand Grave est sorti. En même temps, Ducournau le disait beaucoup dans ses interviews. C'est pas vraiment un film d'horreur. Il y avait un peu ce truc de, au cas où, peut-être pas trop labellisé tel quel pour que des gens viennent. Et je me rappelle aussi que beaucoup d'amis l'ont vu. Ils m'ont dit, oh bon, t'as vu, c'est pas un film d'horreur, mais c'est super bien. Et j'étais, ah non, mais c'est un film d'horreur, il n'y a pas de mal, t'as aimé un film d'horreur, c'est hyper bien. Et c'est pas grave. Et il y a ce truc aussi, je pense, dans la tête du jeune public ou du public moins jeune, mais du coup très fan et très habitué, que c'est un genre qui est lié à un imaginaire très national américain. Si on prend d'autres genres très très américains, comme le western par exemple, ou même la science-fiction, par exemple, qui est très marquée américain, c'est hyper compliqué de franciser un genre qui a pris du temps à arriver en France, en fait. Et je pense aussi que la porte d'entrée, c'est toujours d'abord de le nationaliser. Et donc, pour le public, c'est aussi compliqué. C'est-à-dire, c'est OK, je prends au sérieux un film américain, mais je ne prends pas très au sérieux un film d'horreur français parce que c'est français. Parce qu'on parle français et que je sais qu'on parle français et que ouais. C'est pas doublé, alors que les jeunes regardent les films d'horreur doublés en français. Donc, c'est pas vraiment la langue qui devrait les déranger. Mais c'est juste ce côté... C'est pas un film d'horreur, ça devrait pas être français. Et donc, je pense que c'est aussi le blocage qu'on a par rapport à ce genre-là et qui est très lié. Et je voulais revenir sur le rapport aux réalisatrices. Les Américaines, par exemple, font pas du tout la même chose. Donc là, on t'a cité Coralie ou même Julia Ducournau, etc. Ou même se contenter de faire les réalisateurs masculins comme Aja en France. Les Américaines ont eu tendance à se dire, on va pas se démarquer d'un point de vue hyper esthétique parce qu'il faut aussi qu'on soit financé, justement. Il faut que ça marche. Et elles sont beaucoup plus subversives. C'est-à-dire que quand on regarde les films, par exemple, je pense que tout le monde a oublié qu'American Psycho, c'est quand même réalisé par une femme, alors que c'est hyper brutal et que c'est quand même hyper masculin. Et on peut dire, première lecture, effectivement, oh là là, mais my God, c'est vraiment un film hyper misogyne, c'est hardcore. En plus, c'est écrit par un auteur qui est quand même hyper machiste, si ce n'est misogyne. Et en même temps, la double lecture, elles l'ont très vite compris, c'est... Vous voyez que ça, financez-moi cette version-là et cette lecture-là. Et le second degré, vous allez voir une autre lecture qui est bien plus subversive, où en fait, elles ont compris comment attaquer la masculinité un peu en creux. Et c'est aussi, je pense, on revient à cette question-là, qu'est-ce qu'ont compris les vrais fans filles ou femmes de films d'horreur, c'est-à-dire avoir une autre lecture aussi. De se dire, ok, mais moi, tous mes potes mecs, effectivement, adorent les films d'horreur parce que c'est des nanas, des gros seins, des cris et que c'est nul. Et vraiment, moi, mes potes mecs me disaient que ça encore, même quand j'étais vraiment au début de ma vingtaine. Et je me disais, mais en fait, ou vous le faites exprès, ou vous voyez pas du tout la seconde lecture parce que ça vous arrange. Et quand je commençais à leur dire, mais en fait, c'est pas du tout ça. Enfin, tu sais, ce que t'as aimé, c'est quand même un film qui critique tout ce que tu crois adorer. Et il y a cette chose aussi qui est beaucoup plus en creux et qui permet aussi d'avoir une lecture hyper résistante sur un genre qui maintenant arrive un petit peu en France, alors qu'aux États-Unis, c'est depuis les années 70 qu'on se bat à la fac pour le dire et que le public le sait plus ou moins et fait semblant, entre guillemets.
Mais du coup, on a parlé des figures féminines dans l'horreur derrière la caméra, mais il y a aussi, du coup, devant la caméra... On a parlé un petit peu, j'aimerais qu'on revienne sur les stéréotypes des figures féminines, des slashers, donc comme on disait Final Girls, Side Girls, Scream Queen. Est-ce que vous pourriez les définir un petit peu? Parce que c'est des femmes en fait qui doivent être méritantes pour survivre, quoi.
La Final Girl, ouais.
Ouais.
Bah, l'idée de la Final Girl, arrêtez-moi si je me gourre, mais c'est que pour. Elle doit être vertueuse, le mieux c'est qu'elle soit vierge, pour mériter d'aller jusqu'au bout, au bout du film. Donc on est dans la dichotomie éternelle de la vierge ou la putain, soit t'es une putain et tu crèves assez rapidement, et c'est parce que t'auras porté un mini-short, etc. Ou alors tu es vertueuse, tu es conduit un petit peu les garçons qui s'intéressent à toi, et à ce que, dans ce cas-là, tu mérites d'aller jusqu'au bout et de gagner, quoi. Donc peut-être que vous voulez nuancer un petit peu, mais
c'est très male gaze finalement, parce que les femmes sont super sexualisées aussi. Et je crois que c'était une reproche qui t'avait été adressée par rapport à ton film Coralie, parce que donc je me souviens plus de son nom, mais
Mathilda Lutz,
voilà, est très elle est en petite tenue tout du long, en plus toute la première partie du film, voilà, elle comme diraient les hommes, elle allume ses
j'adore cette phrase, comme diraient les hommes.
Non, mais voilà, comme si elle leur donnait raison de faire ce qu'ils font derrière, c'est-à-dire la violer. Toi, c'est un truc qui t'a été un peu reproché, voire, il me semble, on t'a dit que c'était misogyne comme vision de personnage.
Oui, il y a eu en effet pas mal de commentaires en ce sens. Alors, c'est marrant parce que moi, en fait, par rapport à l'horreur, avant de faire mon film, j'étais pas du tout au courant en fait, de toute cette vision analytique de la Final Girl, que je savais même pas ce que c'était en fait comme concept. C'est vrai que j'ai une manière de regarder les films qui est pas du tout analytique et du coup, mon rapport à l'horreur ou au film, voilà. Que je n'ai quasi pas regardé de Rape and Revenge, parce que ce n'était pas du tout mes références pour faire mon film. Je n'avais pas du tout décortiqué ou quoi. Et c'est rigolo, parce que pendant qu'on parlait, j'étais en train de penser qu'un de mes films d'horreur préférés, qui est The Thing, n'a aucune femme, en fait, dans le film. Et donc, je pense que c'est ça, quand tu me disais, en fait, quel est ton personnage d'horreur préféré. Je pense qu'en fait, ce que j'en ai pas, parce que c'est vrai que pour moi, le rapport à l'horreur, ça a vraiment été ce genre de film-là, où c'est effectivement un boys club, enfin tu vois, donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez une vision qui est assez liée à ça. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire Revenge, très vite pendant l'écriture, en fait, s'est posé la question de qu'est-ce qu'allait être le film, en fait, puisque on parlait de symbolisme tout à l'heure. Et moi, en fait, je voulais pas vraiment faire un film d'horreur ni un Rape and Revenge. Je voulais vraiment faire une sorte de revenge movie. Enfin, moi, mes références, c'était Rambo, c'était Mad Max, c'était Kill Bill, c'est-à-dire des personnages qui sont mis plus bas que terre pour ce qu'ils sont, qu'on se permet d'écraser et qui vont, en fait, renaître de leurs cendres et mettre les deux pieds par terre en disant « Ma place, c'est là, maintenant, je l'assume. » Et je mérite ma place dans le monde. Et en fait, par rapport à ce personnage féminin, je voulais en fait qui représente toutes les attaques, toutes les violences que pouvaient vivre les femmes de manière symbolique, en fait, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques, et les transformer de manière symbolique pour que ce personnage qui ne vit que dans le regard des autres au début, la seule chose qu'elle veut, c'est to be noticed, être remarquée.
Ouais, l'attention.
Voilà, pour qu'on la voit. En fait, après, je me suis dit, il y a deux choses qui ont guidé mon écriture. La première, c'est je ne veux pas qu'elle passe tout le film à crier. Voilà, je ne veux pas de la scream queen, donc jamais dans le film, elle crie.
Elle est presque mutique.
Elle crie jamais, vraiment. Et la deuxième chose, c'était... Je ne veux pas que d'autres l'aident pour lui permettre de se relever. En fait, donc tout ce qu'elle va faire, elle le fait par elle-même. Il n'y a aucune personne qui va être sur son chemin pour lui donner un coup de main ou lui permettre d'avoir accès à quelque chose. Et du coup, est venu ce côté très organique de renaissance et finalement de réappropriation de son corps en faisant quelque chose dont elle continue à être fière, en fait, qu'elle use différemment parce qu'elle est dans une relation qui n'est plus sexualisée vers d'autres, mais qui est presque un rapport organique à la nature, aux éléments, à l'être vivant qu'elle est. Et surtout, en effet, je ne voulais pas du tout qu'elle puisse se dire « Ah, bah maintenant que je suis devenue forte, faut que je mette des avis. » Parce que ça voudrait dire que je... délégitime complètement ce qui se passe dans la première partie, à savoir que pour moi, elle a le droit de s'habiller comme elle veut, d'être aussi provocatrice, provocante qu'elle veut, d'être aussi sexy, sensuelle qu'elle veut. Ça ne légitime en rien ce qui lui arrive. Et donc, je voulais vraiment que son corps, en fait, reste au centre du film, du début à la fin. Et pour moi, c'était vraiment un élément fondamental du film, que c'était son corps, le personnage du film. Donc au début, c'est un corps qui est sexualisé, qui est sensualisé avec le soleil, la piscine.
Oui, puis il y a des plans qu'on retrouve vraiment dans tous les films.
Exactement. Et après, c'était un corps qu'on allait voir dans ses blessures, dans sa sueur, dans son côté physique, quand elle doit porter cette arme, etc. Et du coup, c'est vrai que c'était vraiment un choix très, très assumé. et qui, effectivement, je pense, n'a pas été compris par tous, mais parce que je pense que les représentations de ce qu'est une femme forte et une femme libre véhiculent elles-mêmes beaucoup de clichés. Et si on correspond pas à voilà, une représentation préconçue, on sort des cases, quoi.
C'est le problème des stéréotypes, en fait, finalement.
Voilà, ouais.
Et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de ne pas avoir regardé de films en te posant de questions sur ce que représentaient politiquement parlant les héros. Je trouve qu'on est dans une époque où on a tendance à politiser absolument
ouais,
tout. Et je trouve ça très intéressant qu'une réalisatrice ose dire qu'elle regarde en fait comme une consommatrice en prenant les émotions et c'est tout. Moi par exemple The Thing aussi c'est ma passion absolue. Je trouve que le travail de Rob Bottin qui était le gars qui a fait qui a créé la créature est absolument extraordinaire et j'ai presque parfois j'ai tendance à m'excuser un peu quand je parle de ces films là parce qu'en tant que rédactrice dans un média féministe j'ai l'impression que il faut que je taise un petit peu toutes ces passions obscures que j'ai pour le cinéma fait par les hommes qui présentent des hommes etc. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui relève me dire quelque chose.
Non, le contre-argument, c'est de dire que c'est pas parce que c'est des films réalisés par des hommes qu'avec des hommes que c'est pas féministe. Au contraire, je trouve que dans The Thing, ce qui est, je pense, un peu malgré lui, n'a pas forcément voulu faire Carpenter, mais tout le truc du film, c'est de montrer comment la masculinité toxique va finalement se bouffer entre elles. C'est de dire, effectivement, il n'y a que des hommes, mais c'est bien le problème. Et parce qu'il n'y a que des mecs, qu'en fait, il n'y aura aucune autre solution. Ce qu'avait déjà tenté de faire juste avant Ridley Scott avec Alien, où finalement, c'est parce qu'il n'y a que des mecs que Ripley va survivre. Parce qu'ils sont tous absolument nuls. Et que c'est la seule, finalement. Et là, dans le signe, il n'y en a carrément pas. Donc, du coup, effectivement, ils vont se bouffer entre eux, entre guillemets. Et le contre-argument, c'est ça, où on peut avoir effectivement une lecture bien plus féministe, de dire, oui, c'est hyper masculin, mais ça dit quand même quelque chose de cette masculinité hyper explosive dans le cinéma d'horreur, ou de façon générale, dans le cinéma un peu d'action, comme ça. Et donc, c'est le contre-argument pour dire, finalement, qu'on peut aimer le signe de Carpenter, même si on revient à l'intro, parce que Carpenter est pas, se dit clairement pas féministe lui aussi, mais a une lecture bien plus résistante derrière.
Si, il se dit féministe parfois. C'est-à-dire que je me souviens sur le tournage de Starman, il avait été interviewé, il disait voilà, en fait, moi c'est l'héroïne la plus féministe que j'ai jamais créée, donc là je pense que je vais les avoir dans la poche. En gros, un truc comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il avait quand même quelques ambitions et quelques prétentions à créer des héroïnes féministes. Après, ce qu'il en a fait, c'est ce qu'il en a fait, mais.
Après, Kalindi, t'avais écrit un article qui s'appelait « Le genre de l'horreur est-il sexiste ?» Et t'avais, je crois, interviewé Alexandre Aja qui disait qu'en fait, lui, il regardait pas les films d'horreur parce qu'il avait envie de tronçonner des meufs, mais parce qu'il s'identifiait en fait à la figure féminine. Donc j'ai l'impression que quand les femmes sont bien écrites, en fait, comme c'est un genre qui attire aussi les hommes, ils sont capables de s'identifier aux héroïnes. Et ça, c'est hyper cool et ça n'arrive jamais, parce que on en parlait dans les teen movies dans l'épisode précédent, les films de filles, c'est pas quelque chose vers lesquels les hommes vont aller. Par contre, les films de mecs, on retrouve des femmes qui regardent de l'horreur, etc. Et en fait, c'est ce qui est intéressant, je pense, dans l'horreur, c'est que c'est un genre, j'avais noté le genre pour exorciser le patriarcat.
Putain, c'est un fat programme, hein.
Non, mais je me dis, c'est quand même des films qui passent la plupart du temps le test de Bechdel. Les femmes ont autant la parole que les hommes, sont des héroïnes.
Certains, quand même.
Oui, certains. Mais
le mien, pas du tout, par exemple. Il passe pas le test. Hein.
C'est clair.
Elle parle pas.
Et puis, elle parle que des mecs, du coup, avec des mecs et que des mecs.
Ouais. Non, moi, c'est l'anti-test.
Mais il faut créer des nouveaux tests, en fait, aussi, parce que je suis pas sûre que le test de Bechdel...
Il y a plein de films qui passent le test de Bechdel et qui sont foncièrement peu féministes, donc...
Oui. Non, mais c'est pour dire aussi que les femmes sont quand même entre... on leur tape dessus, c'est-à-dire t'es une mauvaise femme, donc on va te déglinguer la gueule, et c'est de la mise en valeur aussi quelque part, parce que c'est par là, j'ai l'impression, hein, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que parmi les plus grandes actrices, il y en a beaucoup, notamment les américaines, qui sont passées par le genre de l'horreur en premier et qui ensuite ont fait des trucs entre guillemets plus sérieux, mais qui avaient beaucoup de jeunes actrices en fait qui se sont fait découvrir dans les films d'horreur, non?
Oui, si, mais après, parce que c'est comme pour la comédie, c'est les genres les plus faciles pour rentrer, pour se faire de l'argent, pour se faire remarquer, et puis après...
C'est là où il y avait des rôles aussi, hein,
c'est ça. Et puis ça ne demande pas d'avoir une grande capacité, d'actrice, et c'est le premier test, c'est ça, c'est est-ce que tu es capable de crier, oui, bon, c'est bon, on t'embauche, t'as une bonne plastique, ou même pas, Enfin, elle n'a même pas besoin d'avoir dans Halloween des gros seins, et puis c'est OK. Juste, tu cries, et puis t'es la fille de, donc c'est OK. Mais
wow.
Non, mais
prends ça dans ta gueule, Jamie.
Que j'adore, cela dit, par ailleurs. Mais je veux dire, c'était vraiment le contre-exemple à l'époque de se dire, effectivement, on lui a juste demandé de savoir crier. Après, ça s'est un peu complexifié. Il fallait quand même avoir une plastique un peu plus marquée femme, malgré ce qu'on en dit sur le fait que les survivantes sont plus masculines. Dans le fond, je pense que dès le début, les survivantes sont quand même hyper féminines, à part dans Halloween. Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi tout ce rapport à cette question du sexisme. C'est-à-dire qu'en même temps, cette question, elle ne va jamais disparaître. Et oui, clairement, le cinéma d'horreur, c'est un genre qui est hyper sexiste. Et on ne va pas se mentir sur ça. Après, la question, c'est on peut avoir une autre lecture et on peut avoir une lecture un peu résistante sur des films qui resteront hyper sexistes. Et la question, c'est quel regard on pose dessus. Et effectivement, je pense que ça fait plus chier des auteurs masculins de se dire « Ah, j'ai voulu faire un film qui n'était quand même pas hyper féministe, puis merde, elles vont encore venir derrière et me faire leur petit truc féministe. » Je pense que ça les emmène un peu profondément. Et après, il y a l'autre camp, ceux qui sont persuadés, qui disent « Oh là là, je ne suis pas du tout sexiste. Aja, j'attends quand même qu'il nous fasse un film vraiment féministe. Non, non, si, je m'identifie aux femmes. » Ça, c'est l'autre camp. C'est le camp que les féministes ignorent cordialement. Et personne ne va les défendre. Donc, ils se disent féministes s'ils veulent, mais on attend encore. Mais je pense que c'est un vrai enjeu quand même de se dire, c'est-à-dire pour qui je parle, à quel public je m'adresse, comment je me positionne, à quel média je m'adresse aussi, attention. Parce qu'en France, c'est facile d'arriver et de dire je suis un auteur et je suis hyper féministe. C'est facile. Typiquement, ce que faisait Tarantino avec Kill Bill, qui n'est pas un film d'horreur, mais comme on en reparlait sur ce rapport-là, c'est plus facile dans des pays comme la France qui vont intellectualiser, de se dire j'arrive, je suis féministe. Typiquement, Carpenter qui va se dire féministe chez nous. Aux États-Unis, il est considéré comme hyper masculin et hyper conservateur. Je pense qu'il n'ose pas dire dans les médias je suis féministe, sinon plus personne n'invite. Non, mais c'est vrai. Et il y a aussi tout ce truc-là, c'est-à-dire la lecture sexiste, elle ne va pas disparaître, mais à qui on s'adresse et si on le combat, et comment aussi on arrive à éduquer le regard. C'est-à-dire comment aussi, potentiellement, on dit à un jeune public bah, ce que vous consommez, c'est à la fois hyper sexiste et en même temps, si tu éduques un peu ton regard, tu peux y voir quelque chose de totalement différent. Et quelque chose de finalement bien plus résistant que tu ne l'imagines quand tu vas voir Saw et compagnie. C'est pas juste le septième film de la saga qui est hyper nul à force. Il y a un vrai enjeu, comme disait sur le rapport aux peurs. Il y a un vrai enjeu. Qu'est-ce que ça dit des peurs collectives? Qu'est-ce que ça dit de notre société? Et au-delà du sexisme qui est juste le truc facile pour discréditer, est-ce qu'au contraire, on peut, grâce aussi aux médias, à l'université, à Internet, etc., essayer de montrer qu'on peut regarder ça différemment aussi. Et qu'on peut juste dire que c'est sexiste, mais apprendre à le critiquer correctement. Plutôt que de juste dire, oui, ça crie avec des gros seins, c'est mal. Et je pense que c'est le vrai enjeu féministe derrière, justement, apprendre à avoir une lecture un peu différenciée.
Mmh. Bah donc c'est éduquer le public, mais du coup il faudrait aussi éduquer les auteurs.
Mais ça ils voudront jamais. Hein. On veut bien, on les forme gratuitement s'ils veulent. Hein, mais
à la Sorbonne c'est possible.
Mais chez eux, hein, on vient.
Célia elle donne des cours particuliers.
En tout bien tout honneur, attention parce qu'il faut pas trop me pousser non plus.
Non mais c'était super intéressant, merci à vous trois d'avoir participé. J'aimerais bien terminer le podcast est-ce que vous pourriez me donner votre affiche idéale de film d'horreur? Alors j'aime bien faire ça en fin de podcast, d'habitude c'est moi qui l'ai fait, mais là comme j'y connais rien, je vous laisse faire mon travail quoi. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Est-ce que vous avez des scénaristes, des réalisateurs ou des réalisatrices, un casting? Kalindi, je sens que t'es prête.
D'accord, allez c'est bon, j'ai noté. Alors, pour mon film d'horreur, c'est compliqué parce que de quoi il va parler mon film d'horreur, j'en sais rien, tu vois, donc je prends des gens au pif parce que je les aime bien. Alors j'ai pris en scénariste Sergio Sanchez, qui est le scénariste de L'Orphelinat et du Secret des Marrowbones, parce que j'aime bien ses intrigues à tiroir, j'aime bien ce gars, je le trouve cute dans ce qu'il fait. J'ai pris deux réalisateurs,
cute, ouais, je le trouve cute. Ça va être le meilleur film d'horreur.
Je trouve qu'il a une. Je trouve qu'il écrit. Je trouve justement son écriture nuancée. Je trouve qu'il écrit des super personnages féminins. Donc j'aime beaucoup ce type. Et j'ai pris deux réalisateurs. J'ai pris Rose Glass parce que j'ai vraiment été fascinée par Saint-Maude. Et j'ai pris mon petit chouchou du moment, Ari Aster.
Oh là là, surprise.
Parce que en plus Bichette.
Il va bientôt sortir un nouveau film. Enfin, il me semble que.
Eh ben, je crois bien que oui, mais pas tout de suite. Je pense, mais je sais même pas de quoi ça parle son nouveau film. Je sais que ça fait
une comédie
d'horreur de 4 heures, je crois.
Ah, mais oui, c'est ça.
J'avais lu ça.
Ah oui, c'est vrai. Eh bien, très bien. Donc, Harry est peut-être un peu pris.
Donc, ce serait une collaboration.
Ah, c'est une coréale, Harry Astaire, Rose Glass. Je pense que les deux pourraient faire un truc assez explosif. Et en cast, j'ai Charlotte Gainsbourg, que j'adore. Que j'adore. Et puis, parce qu'elle tourne dans des films d'horreur que j'aime beaucoup, mais qui sont. J'ai peur de le dire là, cette table, mais je vais dire que j'ai une lecture extrêmement féministe de ces films-là.
Attention quand même.
Ouais, je sais pas.
Sinon, on va faire un petit cours particulier aussi, mais.
Donc, je ne vais pas citer ce réalisateur. Donc, j'ai Charlotte Gainsbourg, j'ai Mads Mikkelsen, Jamie Lee Curtis, parce que je serais contente de la revoir dans mon film, et Morphy Clark, qui est l'héroïne de Saint-Maud, que j'ai trouvé extraordinaire et qui jouera bientôt dans la série de Seigneur des Anneaux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Trop bien.
Donc, j'adore mon casting.
Ça promet. Qu'est-ce que vous en pensez?
Un casting éclectique. Hein.
Ah, on a envie de voir le film. Est-ce que vous avez des contre-affiches ou,
Bah là, en plus, il y a du français, anglais, américain, danois. Enfin, vraiment, c'est top, quoi. C'est...
Moi, j'ai une contre-affiche, mais que américaine. Je suis vraiment puriste pour ça, du coup. On n'a pas du tout parlé de d'Anya Taylor-Joy, qui est l'actrice de...
Je l'ai, j'ai mis Anya.
Voilà, Anya, pour moi, c'est vraiment la révélation. De toute façon, je veux la voir dans n'importe quel film. Si on peut la revoir dans un film d'horreur, je serais plus que ravie. Je voudrais vraiment voir Rihanna, parce que j'ai adoré son clip « Bitch, Better Have My Money ». Je pense que c'est une piètre actrice, mais je pense qu'elle serait très bien en femme hyper badass d'horreur. Du coup, peut-être que, comme dans le clip, il y a Matt Middleton, on peut le prendre
bah
aussi.
Ouais, bah ouais, bah top. Bah tu vois, ça se rejoint. Hein. Ouais,
et j'ai vraiment beaucoup kiffé Us. On n'a pas du tout parlé, du coup, des films d'horreur beaucoup moins blancs, parce que c'est quand même un peu la grosse domination encore et partout. J'aimerais vraiment revoir le Pianengo, qui est vraiment top dans Us, et je pense que ce serait vraiment bien d'avoir des films beaucoup plus intersectionnel sur ces questions-là. Après, en scénariste, j'aurais voulu que Diablo Cody fasse un meilleur film que Jennifer's Body. Je lui en veux terriblement de m'avoir promis beaucoup de choses et de m'avoir déçue. Donc, je veux lui donner une seconde chance. Voilà. Si elle ne veut pas le réaliser, j'aimerais voir une réalisatrice qui est pas, je pense, un peu inconnue et aux États-Unis et en France, mais son film était très très bon, qui s'appelle The Fitz, qui est un petit teen movie, dont l'ambiance est assez horrifique, même si ce n'était pas un film d'horreur. Et la réalisatrice s'appelle Anna Rosolmer, et j'aimerais vraiment la voir, une espèce de, comme ça, de teen movie horrifique, un peu improbable. Et son actrice aussi est vraiment super bien. Je crois qu'elle s'appelle Royalty Hightower, un nom qui promet beaucoup de choses. Et on l'a vu que dans son film,
clair.
The Fizz, donc. Et j'aimerais vraiment avoir une affiche comme ça, avec juste Anya Taylor, Joy, en femme blanche. On en fait ce qu'on veut, mais je ne voudrais pas qu'elle ait le sort des films de Jordan Peele. Moi-même, si elle pouvait être un peu sauvée. Voilà, c'est mon affiche que j'aimerais avoir.
100% féminine, pour
oui,
le coup.
Oui, que des femmes. Je me suis féminine. Dit, voilà, c'est bon, on parle des hommes tous les jours, donc je leur donne aucune place.
Ok.
Et toi, Coralie?
Alors, en fait, bon, j'ai une affiche moins détaillée, mais j'aimerais bien voir... on n'a pas encore pu voir le dernier Verhoeven, mais j'aimerais bien voir Virginie Efira.
Ah, excellente idée!
Ouais, dirigée par Jennifer Kent, puisque j'ai adoré son dernier film The Nightingale, qui a été totalement boycotté, en fait, qui n'a pas eu de sortie digne de ce nom. Et c'est assez hallucinant, en fait, par rapport aux propos du film, je pense. Donc, ouais, ce duo-là me plairait bien dans un film très dépouillé, très brutal. Avec peu d'acteurs, centré sur Efira. Voilà, c'est
trop
ça
bien.
Qui m'est venu.
Bah, Efira dans un film d'horreur, moi j'achète.
C'est une bonne idée. Hein. Ah ouais, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ce serait top. Bah, merci beaucoup, j'espère qu'on verra vos films voir le jour un jour. Waouh, on verra vos films voir le jour
oui,
un jour.
Ça.
On veut juste que les salles de cinéma réouvrent aussi, c'est déjà le principal.
Voilà, ce serait déjà bien, ouais.
Merci à vous trois d'avoir participé à ce podcast.
C'était
trop cool, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode d'Affiché. S'il vous a plu, abonnez-vous au podcast pour recevoir toutes les notifications ou laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Parlez-en aussi autour de vous, vous savez comme on est friande du bouche à oreille. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Affiché.
Hey. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.